Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la Fabrique de la Culture. Avec moi en studio pour vous présenter cette émission, Anaïs et Michel, bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir Alicia.
Alors aujourd'hui je suis contente, oui je suis contente parce que le mois de mai approche avec son lot de réjouissances culturelles. La semaine passée j'ai reçu mon petit BNB, vous savez l'agenda culturel de la ville de Bourg-en-Bresse. Et en le parcourant, je vois une offre culturelle débordante, bien souvent gratuite. Au mois de mai, il y en aura vraiment pour tous les goûts, expos, concerts, spectacles vivants, lectures, etc. Ça va bouger au mois de mai à Bourg. On retrouvera entre autres nos événements habituels, donc Brin de Cirque, la fête de la tannerie, la nuit européenne des musées et l'événement culturel et artistique de la ville. Cette année, la ville de Bourg-en-Bresse a choisi le thème « Belgitude ». Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, puisqu'on vous a prévu un petit tour d'horizon de la programmation de Belgitude. Ça promet.
Radio B, Radio B.
Anaïs, tu as invité en studio DJ Babalia. Bonsoir Babalia.
Bonsoir.
Bienvenue dans cette Fabrique de la Culture. C'est vous que nous allons cuisiner en premier dans quelques minutes. Michel, la Maison du Théâtre a fêté ses 20 ans et dans la Fabrique de la Culture, on lui souffle aussi ses bougies.
Oui.
Et puis, il sera également question de tapisserie. Mais non, pas celle qui recouvre les murs de votre mémé René. Michel, tu poursuivras avec du théâtre, ou plutôt l'adaptation d'une BD en théâtre d'objets. Et on reçoit à cette occasion David Pain et Pascal Marinelli. Et puis, comme je vous le disais à l'instant, Michel, on ne pouvait pas faire l'impasse sur l'événement du mois de mai, Belgitude. Mais avant de partir en Belgique, on reste ici à Bourg-en-Bresse avec Babalia, l'invitée de notre émission Anaïs.
Oui, effectivement, Alicia, nous restons à Bourg avec notre invité local Babalia, mais il a entre autres le talent de nous faire voyager grâce à ses disques vinyles venant du monde entier. Mais Babalia n'est pas seulement DJ, il est aussi professeur des écoles, conférencier, digger et beatmaker. Mais Babalia, bonsoir.
Bonsoir.
Pouvez-vous nous dire ce qu'est beatmaker ?
Un beatmaker, c'est quelqu'un qui fabrique des beats, c'est-à-dire des rythmiques. Ça vient de la culture hip-hop. Le beatmaking, c'est né avec les premières machines. Au début de la culture hip-hop, ils utilisaient simplement des platines vinyles pour pouvoir enchaîner deux parties identiques sur deux vinyles. Petit à petit, avec les machines, il y a eu des boîtes à rythme, des sampleurs. Et ceux qui produisent, c'est des producteurs en fait, ceux qui produisent les instrumentaux de hip-hop, on les appelle des beatmakers. Et ça peut s'élargir à d'autres genres musicaux.
D'accord, c'est une de vos nombreuses activités, on ne va pas s'étendre là-dessus. Parce que vous êtes aussi digger. Mais qu'est-ce que c'est digger ? Dites-nous tout.
Alors digger, c'est le diminutif de crate digger. Crate digger, c'est ceux qui fouillent dans les bacs. Avec digging in the crate, ça veut dire fouiller, fouiner dans les bacs. Et en fait, c'est des gens qui ont une activité hebdomadaire, voire plus, de chercher des disques qui les intéressent dans des bacs où il y a des disques qui sont pas chers, et on passe des heures et des heures et des heures à fouiner dans les bacs de disques. Moi, je le fais tous les dimanches de avril à novembre, plus en d'autres occasions, et je le fais quand je voyage aussi.
D'accord, mais moi, ma question, c'est comment vous est venue cette envie de le faire ?
Eh ben, j'ai toujours aimé la musique. J'ai commencé à écouter beaucoup de musique noire quand j'avais 14-15 ans. Et puis, petit à petit, le support CD m'a moins plu. Et j'ai voulu chercher des disques originaux, l'objet tel qu'il était sorti quand le morceau avait été produit. Et je suis naturellement allé vers le vinyle.
Et donc, votre domaine, au départ, c'est les musiques noires, donc d'Afrique ou d'ailleurs ?
Bah, au départ, j'étais plutôt branché jazz, blues, reggae, hip-hop. Et puis, un jour, j'ai découvert Fela. Et derrière Fela, Fela Kuti. On se rend compte qu'en fait, Fela, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et que derrière, il y a des milliers de musiciens africains. Et puis, il y a toute la musique des Caraïbes, toute la musique d'Amérique latine. Et puis, depuis 5 ans, je suis aussi rentré très fortement dans les musiques d'Europe, en particulier d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud, mais aussi de toutes les parties de l'Asie. Donc maintenant, c'est plutôt une discothèque représentative de la production mondiale à ce que j'appelle l'âge d'or, c'est-à-dire des années 60-70 que j'essaie de construire.
Et bah du coup, ça me permet d'enchaîner sur une question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a une partie du monde que vous n'explorez pas musicalement finalement ?
Ben, à présent, les parties du monde que j'ai du mal à explorer, il y a deux sortes de parties du monde. Les parties du monde où il y a eu très 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 peu de disques produits. Bon, forcément. Alors il y a plein d'endroits dans le monde où il y a eu des dizaines de milliers de disques produits sans que nous, on puisse en avoir conscience. Nous, on pense aux États-Unis, on sait qu'en Jamaïque, il y a eu beaucoup de disques produits, etc. Mais par exemple, au Congo, il y a eu énormément de disques produits, largement autant qu'en Jamaïque. En Thaïlande, il y en a eu énormément aussi. Tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Et il y a des endroits dans le monde où il y a eu très 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 peu de disques produits, je pense à l'Afghanistan par exemple, il y a eu très très peu de disques produits en Afghanistan, donc ils sont difficiles à trouver. Et il y a d'autres endroits où il y a eu quelques disques produits, mais ils sont tellement recherchés que sur le marché du disque, ils sont à des prix qui sont pas... Parce que moi, j'essaie de pas mettre trop d'argent non plus là-dedans, alors que pour certains, c'est un sport de
luxe.
De luxe. Et voilà, j'essaie de pas trop mettre de sous la dent. Et donc, il y a des endroits où les disques sont trop chers pour les chercher, quoi.
D'accord. Donc finalement, vous explorez là où il y a du disque et c'est pas tellement le lieu, c'est là où il y en a.
Ben, c'est aussi, j'ai des régions que je préfère et le prix joue dans l'histoire. Quand j'achète des disques sur le réseau international qui peut passer par des sites comme eBay ou etc., par enchères ou pas.
Et votre lieu ou style préféré de prédilection, juste un? Si vous deviez en choisir un, c'est dur, je sais, mais là, maintenant, tout de suite, le premier qui vous vient. Allez, je vous laisse un joker.
Allez, non, j'aime beaucoup la musique du Bénin.
Ok, alors on part pour le Bénin, en tout cas, là, maintenant, tout de suite. Et du coup, je me dis qu'aussi, quand on est digger, tel que vous venez de nous l'expliquer, vous devez avoir une quantité astronomique de disques. Comment est-ce que vous les gardez tous? Comment vous pouvez faire, les stocker, enfin, expliquer.
Non, je fais des tris pour pouvoir... j'en donne un peu, j'en vends un peu, j'en vends certains vraiment pas cher, et puis j'en vends d'autres un peu plus cher par d'autres circuits. Je fais des échanges aussi. Et puis, oui, le système de rangement a évolué avec le temps. Et là, c'est plutôt... oui, ça prend un petit peu de place.
Vous avez un ordre d'idée de la quantité que vous avez à peu près en moyenne?
Ouais, je dirais 4000 à 4000 disques à peu près. Mais contrairement à d'autres qui se spécialisent vraiment sur une région du monde ou un genre musical et qui essayent d'aller faire une collection presque exhaustive de cette région du monde ou de ce genre musical. Moi, j'essaye plutôt d'avoir une collection représentative du monde entier. Donc, à partir du moment où j'ai de quoi faire une belle sélection dans tel genre musical de tel pays, j'ai plutôt tendance à m'arrêter, sauf si je tombe sur... voilà, en cherchant, parce que donc, je ne cherche pas que sur Internet, je cherche beaucoup dans les bacs. Et je prends tout ce que je peux ramasser qui m'intéresse, je le prends. Mais je ne fais pas de recherche pointue sur Internet pour trouver des disques à partir du moment où j'ai déjà dans ma collection...
Un bon échantillon du lieu et du style.
C'est ça.
D'accord. Et du coup aussi, donc, on a bien compris, digger, c'est un peu collectionneur, spécialisé dans les vinyles. Mais vous ne vous contentez pas de les collectionner, vous êtes aussi DJ. Du coup, je me demandais, avec 4500 disques à peu près et tous ces styles, comment vous choisissez les disques que vous allez passer?
Ben, en fait, je fais beaucoup de sélections à thème. En fait, je suis plus selecta que DJ. Je n'ai pas une grosse technique sur les enchaînements. D'ailleurs, avec les disques que j'ai, ce serait un peu dangereux de trop mixer techniquement avec. Mais je fais des sélections à thème. Du coup, je peux jouer 3 heures de musique d'Europe du Sud ou 3 heures de musique d'Asie du Sud-Est en sélectionnant les morceaux qui m'intéressent. Et puis, quand j'ai des soirées à thème, bah, je vais fouiller plutôt dans la partie de ma discothèque qui correspond à ce thème-là. Par contre, voilà, ce que je voulais dire, c'est que je présente les meilleurs morceaux de ma collection par espace culturel sur ma page Mixcloud, où j'ai déjà une quarantaine de sélections enregistrées. Donc Mixcloud Babalia, B-A-B-A-L-I-A-H, et là vous pouvez écouter gratuitement en streaming une quarantaine de sélections par pays ou par groupe ou par genre musical.
Alors, c'est ce que j'ai fait hier après-midi et je peux vous assurer que j'ai passé un super moment.
Alors, ouais. Je pense qu'on va garder Babalia pour la fabrique de la culture, puisque je n'ai même pas besoin de poser les questions, il y répond avant même que je les pose, donc justement. Donc on... On va pouvoir enchaîner directement sur la suite. Je voulais aussi évoquer une autre partie de votre activité qui me paraît importante et très intéressante. C'est la pédagogie. Alors, vous êtes à la fois pédagogue pour des adultes, pour des enfants. Vous êtes professeur des écoles, vous êtes conférencier. Et finalement, j'ai énoncé plein d'activités. Mais moi, quand je vous vois, quand je vous entends, quand on discute avec vous, on a le sentiment qu'en fait, vous avez une activité. C'est parler de la musique et tout ce qu'elle peut apporter, et que ce soit pour le plaisir, pour apprendre des choses. Et je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment vous voyez, vous conceptionnez cette pédagogie et la musique ?
Oui, alors dans le temps, ça s'est construit. Ça, au départ, j'avais vraiment un boulot d'enseignant et une passion pour la musique. En tant que professeur des écoles, j'avais des séances de musique avec mes élèves. Mais voilà. Et puis petit à petit, la musique c'est devenu un élément fort d'espace culturel, et je me suis mis à m'intéresser beaucoup plus précisément à l'histoire, à la littérature des régions du monde qui m'intéressaient au niveau musical. Et en même temps, dans la classe, je me suis mis à faire des liens entre toutes les disciplines, et en mettant parfois la musique au centre des apprentissages, mais parfois non, pour travailler en interdisciplinarité autour d'espaces culturels. Donc par exemple, c'est ce que j'ai proposé à l'école où je travaille depuis... Ça fait 6 ans qu'on fait ça, donc on travaille chaque période par espace culturel.
Parce qu'il me semble que vous n'avez pas forcément une classe attitrée, mais que vous travaillez sur des projets.
Ouais, j'ai un poste particulier où je suis en plus sur l'école, ça s'appelle plus de maîtres que de classe, et où je travaille avec les collègues en co-enseignement, et donc on travaille par interdisciplinarité autour d'espaces culturels. Donc par exemple, si on est sur l'Afrique subsaharienne, on va prendre une œuvre de littérature d'Afrique subsaharienne écrite par un auteur d'Afrique subsaharienne. On va travailler toute la production d'écrit, la compréhension, l'étude de la langue, le langage oral autour de cette œuvre de littérature. Et on va raccrocher des arts visuels pris sur l'espace culturel, de la musique. En EPS, on va faire de la danse africaine, etc., etc. Ça permet à la fois de donner du sens aux apprentissages en faisant des liens entre les différentes compétences et les différentes disciplines. Et ça permet aussi aux élèves d'apprendre à mieux vivre ensemble, de comprendre des choses parfois sur leurs propres racines culturelles et parfois sur les racines culturelles de leurs voisins. Et sur tout le parcours de la scolarité, on touche tellement d'espaces culturels que finalement, ça donne à la fin une compréhension globale du monde, une vision de l'homme qui n'est pas seulement... qui n'est pas européocentré en fait, et qui permet de construire, je l'espère, des petites graines de citoyens du monde.
Oui, et évidemment, j'imagine mettre du sens et ne pas cloisonner les différentes matières, mais que toutes ces choses-là fonctionnent ensemble. Peut-être rapidement aussi, du coup, je parlais de pédagogie pour les adultes. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais vous faites des conférences aussi ?
Oui, alors là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais j'ai fait un cycle de conférences sur les musiques du Grand Atlantique Noir, c'est-à-dire de Afrique de l'Ouest, Caraïbes, Amérique latine et Amérique du Nord à la Tannerie. C'était un cycle de 12 conférences musicales. J'en ai fait aussi au Sucre à Lyon plusieurs. J'en ai fait dans d'autres endroits en France et en Suisse. J'appelle ça des conf-écoutes. Donc j'ai mes deux platines, j'ai un micro, j'ai un diaporama. Je problématise la production musicale de l'espace culturel dont je vais parler, et j'illustre mon propos par des écoutes tirées de ma collection de disques.
D'accord. Voilà. Je crois qu'on va avoir la chance de vous entendre mixer, vous voir et entendre mixer à Bourg dans pas longtemps. Pouvez-vous nous donner les dates ?
Oui, ça fait un moment que je joue à la Tannerie. Donc là, je vais jouer pour la fête de la Tannerie le 1er mai. Ça doit être moi qui commence, donc c'est 13h-14h30. Où je vais jouer une sélection de morceaux de musique du monde tout azimut des années 70. Et puis j'ai ma prochaine... depuis la rentrée, tous les 2 mois, à la Tannerie également, mais dans le café, je fais une soirée qui s'appelle le Club Afro-Latin. Et la prochaine séance du Club Afro-Latin, c'est le 10 mai, c'est jeudi prochain.
C'est le soir et c'est gratuit, et je vous assure, à chaque fois, ça vous donne envie de bouger et c'est très agréable. Et n'hésitez pas à discuter avec Babalia, il est toujours très ouvert et très intéressant. Nous arrivons au bout de cette interview, mais Vous êtes bien dans la famille de la culture sur Radio B comme Babalia, bien évidemment. Et je vous laisse le choix de la musique, Babalia. Je ne vais pas choisir à votre place.
J'ai choisi un morceau qui vient des Antilles, mais c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle le Rico Jazz, qui veut dire rythme congolais jazz. C'est un groupe congolais qui a enregistré d'abord au Congo à la fin des années 50, début des années 60, qui est venu à Paris et qui a été repéré par des tourneurs qui travaillaient avec les Antilles, qui ont voulu les emmener ensuite en Guadeloupe et en Martinique. Ils sont partis en 64, et en fait, ils devaient tourner pendant 2 mois. Ils sont restés 3 ans, et ils ont complètement révolutionné le paysage musical antillais, puisqu'ils ont apporté une couleur africaine avec la rumba congolaise, les merengues, etc., qui arrivait pile au bon moment pour bouleverser un petit peu le cloisonnement des musiques antillaises en Guadeloupe et en Martinique, avec d'un côté la biguine, de l'autre côté des morceaux plus percussifs. Voilà, le morceau s'appelle « Si bon, dit bon ». C'est un rythme de biguine très très rapide, avec, vous allez voir, un super chorus de sax, super chorus d'orgue et des chants terribles.
C'était donc Si I Bon Di Bon de Rico Jazz. Merci à toi Anaïs pour cette interview, et surtout à Babalia évidemment, hein. C'était vraiment super intéressant. La Maison du Théâtre fête en 2018 ses 20 ans et ce n'est pas rien, Michel.
Oui, la Maison du Théâtre a en effet été créée en 1998 sous statut associatif, soutenu par le Conseil Général, le département, avec à l'origine la comédienne et metteuse en scène Anne Courel. Elle a été conçue, enfin la Maison du Théâtre a été conçue comme un centre de ressources théâtrales pour tous, les professionnels, les amateurs ou les non-pratiquants. Et elle est engagée depuis le début, c'est-à-dire depuis 1998, en direction surtout du milieu rural et pour la découverte du théâtre d'aujourd'hui. Alors vous savez qu'elle dispose en particulier d'une bibliothèque de théâtre contemporain très précieuse, abondante, accessible à tous, dès lors qu'on paye une cotisation annuelle à l'association de 10 euros. Cette cotisation permet aussi d'être tenu informé des événements et actions de la Maison du Théâtre et même souvent de participer à ces actions car elles sont ouvertes à tous.
Oui, et puis la Maison du Théâtre travaille avec des artistes associés.
Oui, depuis le début, en 1998, des compagnies professionnelles étaient associées à la Maison du Théâtre. Les deux dernières étaient la compagnie Arnica, de théâtre d'objets d'Émilie Flaché, et jusqu'à fin 2017, la compagnie Bande d'arrêt d'urgence de Corinne Méric, dont nous avons longuement parlé en mars.
Oui, oui.
C'est désormais une écrivaine qui est associée, à la fois parce que le travail d'écriture est un axe fort de l'action de la Maison du Théâtre, et il est maintenant mis au centre, et puis à la fois pour des raisons budgétaires, les financements de la Maison du Théâtre n'allant pas en s'arrangeant, disons. L'écrivaine associée est depuis le début de l'année Fabienne Suatli, qui a déjà animé plusieurs ateliers d'écriture. Elle propose ce jeudi 26 avril à 18h une lecture musicale d'un de ses textes, « Un jour, je suis passé de nuit ». Ce texte a été écrit sur le travail de nuit dans l'hôpital et l'auteur sera accompagné par le violoncelliste Marc Loras, en partenariat avec le dispositif Culture Nomade du Centre Psychothérapique de l'Ain. C'est donc demain, jeudi 26 à 18h, à la bibliothèque médicale et professionnelle du CPA, avenue de Marbeau à Bourg. La réservation est recommandée auprès du CPA, je vous donne le numéro 04 74 52 24 69. Une autre lecture théâtralisée est proposée par la Maison du Théâtre en présence de l'auteur, enfin elle dit autrice, Fabienne Sviatli, un enfant assorti à ma robe. Cette lecture a lieu dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale 2018 autour de la thématique enfance et parentalité. Il y en a déjà eu en mars à Bourg, Viria est très fort et les prochaines seront données le samedi 9 juin à 16h. À la Grange au Parapluie, à Saint-Julien-sur-Essouze, et le vendredi 15 juin à 20h à la bibliothèque de Villereversure.
Et une dernière info ?
Oui, sur la Maison du Théâtre, qui est le partenaire culturel de nombreux projets artistiques en collège et en lycée du département. Et à ce titre, elle propose aux enseignants et aux responsables d'établissement de les accompagner dans la préparation des projets à construire avant de déposer les demandes de financement nécessaires, puisque c'est le moment de le faire. Donc la Maison du Théâtre travaille notamment autour des écritures théâtrales d'aujourd'hui et aussi autour des mises en scène, du travail de mise en scène. Elle propose pour cela l'intervention d'artistes professionnels, qu'ils soient auteurs, metteurs en scène, comédiens, qui accompagnent l'enseignant en charge du groupe d'élèves. Ben pour tout cela, vous pouvez vous adresser à la Maison du Théâtre à Jasseron, dans le centre-ville.
Merci Michel pour ce petit point sur les 20 ans de la Maison du Théâtre. Si je vous disais qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de tapisserie.
Oh oui.
Mais avant cela, une nouvelle petite coupure musicale.
Sauro matai kinna, sauro matai kinna, sauro matai kinna.
Vous êtes bien sur les ondes de Radio B, vous venez d'entendre...
Nous venons d'entendre Tutti Frutti par le Fast Bastard Gang Band, qui est un groupe lyonnais de musique tendance Balkans et Europe centrale, comme vous avez pu entendre.
Ils
devraient se produire en juillet, début juillet, au Jeudi du Kiosque à Bourg. Et l'accordéoniste que salue le chanteur au milieu du morceau, Elena Barcelli, est plus connue à Bourg, sa ville d'origine, sous son nom d'Hélène Subtil.
Radio B, Radio B.
Alors Alicia, tu voulais nous parler de tapisserie aujourd'hui. Tu as changé le papier peint de ta cuisine. Ah non, je sais. Tu te lances dans le canevas et le point de croix.
Voilà, c'est ça. Non, pas du tout. Non, moi, je ne voulais pas non plus vous parler du vieux papier peint de Mémé René aujourd'hui, mais de tapisserie tissée. Donc j'ai rencontré Marie-Élise Ramusa, qui est lissière et fondatrice de l'atelier de la lisse à Chissay-les-Mâcons. Et je me suis rendue à la MJC de Bourg. Elle y donne un cours de tissage. Donc j'y suis allée avec toute ma naïveté et toute ma curiosité. Marie-Élise Ramusa, c'est quoi une tapisserie ?
Je reprends l'ancien et je m'arrête sur le nouveau. D'accord. Et ainsi de suite, vas-y. Ok. Jusque là. Alors, une tapisserie, c'est d'abord le choix d'un dessin. Une fois que c'est choisi, on va agrandir le dessin à la dimension à laquelle on va réaliser la tapisserie, s'il n'est pas à la taille normale, et on va l'inverser, de manière à avoir le dessin inversé, puisqu'on va travailler à l'envers. Parce que comme vous pouvez le voir, là, de ce côté, c'est plein de petits fils, plein de croisements. Le fait de travailler à l'envers permet une relative rapidité, dans le sens où tous les croisements de fils, les démarrages, les arrêts, le fait de les faire à l'envers, de travailler à l'envers, donc fait gagner un petit peu de temps. Une fois que ça c'est fait, on va écrire tout ce qui techniquement est important, puisqu'il va être placé à l'arrière de la chaîne. La chaîne, ce sont les fils qui sont tendus sur le métier, et ce dessin, on va le placer derrière la chaîne. Donc dessus, il faut que soient indiquées les formes du dessin à part entière, et chaque masse de couleur doit être cernée, doit devenir une forme. Ça veut dire que quand on a un fondu de couleur, il faut que, imaginons qu'on ait une couleur rouge avec une couleur bleue, que ces deux couleurs s'interpénètrent, il faut qu'on définisse l'endroit où le rouge arrête de rentrer dans le bleu et vice-versa. Il faut que tout soit cerné et que chaque masse de couleur, même chaque fondu de couleur devienne une masse à part entière, de manière à tout pouvoir détailler. Alors après, ce dessin, il va être plus ou moins détaillé suivant la grandeur à laquelle on va l'agrandir, suivant le traitement graphique et technique qu'on va en faire. Donc ça, c'est un rapport qu'on a soit avec soi-même quand c'est une création personnelle, soit avec l'artiste quand c'est un travail avec un artiste. On va discuter justement de la manière dont on va traduire ce dessin. Et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va monter la chaîne. La chaîne, elle va avoir une grosseur de fil qui va correspondre au dessin qu'on va faire. Plus le dessin va avoir des détails fins, plus la chaîne va être fine. Et une fois que la chaîne est montée, que le carton est fait, on va faire l'échantillonnage de couleurs. J'ai à peu près 3 tonnes de fil à l'atelier. C'est 30 années d'accumulation, d'achat de laine, de rachat de stock. Et ces laines, on va donc les installer sur le cantre à bobine, donc le portant qui est derrière nous, et on va travailler comme le peintre va le faire avec sa pointe de pinceau, où il va plonger sa pointe de pinceau dans les différents couleurs, pigments. Nous, on va mélanger les fils entre eux. Ces fils, ils sont relativement fins. On va les mélanger entre eux pour créer des chinés. Et à partir de là, faire toutes les couleurs dont on a besoin. C'est rarissime que j'utilise une couleur pure. C'est vraiment rarissime. Donc mes laines, elles viennent de France. Quand j'ai besoin de teindre, j'ai un excellent teinturier à Aubusson, qui est un orfèvre de la couleur. Le travail de la couleur, il est extrêmement important. Quand on tisse, j'ai toujours tendance à dire que la réalisation d'une tapisserie, c'est un tiers la technique, un tiers. Un tiers la couleur, c'est-à-dire à égale importance que la technique. Si on n'a pas un œil qu'on a éduqué, à qui on a appris à comprendre comment fonctionnent les couleurs, comment fonctionnent les contrastes, ben même si on est très bon techniquement, on ne va pas avoir quelque chose de terrible. Et le dernier tiers, c'est ce que j'ai le plus de mal à apprendre à mes élèves, c'est l'observation du dessin. Intégrer et comprendre comment son dessin fonctionne, comment il évolue, comment il a interagi, etc. C'est-à-dire, moi, quand je travaille, avant de me mettre à tisser, je vais avoir regardé la partie que je vais avoir à tisser, comprendre comment les formes tournent, comment les interactions de couleurs fonctionnent. Chaque peinture a son écriture graphique. Donc, à chaque fois, il faut comprendre comment elle a été faite, comment elle a été pensée, comment on va intervenir là-dedans, quelle va être notre propre traduction, puisque chaque lissier, les gens qui tissent des tapisseries ne sont pas des tisserands, ni des tapissiers. Le tisserand tisse des étoffes, le tapissier refait les garnitures de sièges, et le lissier, donc le travail que nous faisons ici, on travaille sur des métiers de haute ou de basse lisse, verticaux ou horizontaux. Chaque lissier va avoir sa propre traduction, hein, comme un peintre va avoir sa propre traduction d'un paysage, d'un dessin. Nous, on va avoir notre propre traduction du dessin, qui va être fidèle au dessin. Le dessin qu'on va reproduire, ça va être le dessin, mais on va l'interpréter de manière différente suivant les personnes qui vont le faire.
Donc, le lissier est un véritable artiste.
Eh oui, un artisan et un artiste. Alors, historiquement, l'apogée de la tapisserie, c'était au Moyen-Âge. C'était vraiment une véritable industrie à l'époque, avant de décliner au XIXe siècle.
Quand on arrête de créer et qu'on ne fait que refaire des choses existantes à l'ancienne, à un moment donné, on ne se nourrit plus de son contemporain, on nourrit plus son imagination, et les gens se lassent. Donc au 19e, on a commencé beaucoup à restaurer. C'est la période où on commence à restaurer les œuvres anciennes, pas forcément bien. Nous, on récupère maintenant ces vieilles restaurations et il faut les reprendre parce que c'était une catastrophe. Au 19e, il y a cette mode de reprendre des choses anciennes qui dure tout le début du 20e. Et où on oublie, enfin, la peinture, elle évolue, tous les peintres contemporains du XXe qu'on connaît, enfin modernes, mais la tapisserie ne suit pas. Elle reste sur du Moyen-Âge, sur de la verdure du XVIIe, à refaire, de moins en moins bien d'ailleurs, de techniquement ou graphiquement de moins en moins bien. Donc les gens s'en désintéressent complètement. Et juste au moment de la guerre, Malraux envoie l'URSA dans les ateliers d'Aubusson comprendre comment relancer la tapisserie. Et donc il y a tout un plan de rénovation de la tapisserie. L'URSA, après-guerre, invite tous les peintres contemporains de l'époque à s'intéresser à ça, et la tapisserie est relancée. Elle est relancée, malheureusement, uniquement autour de l'Ursal. Enfin, il y a plein de peintres qui s'y intéressent, mais c'est vraiment l'Ursal chef de file. Et à Aubusson, on fait du l'Ursal. Il n'y a que du l'Ursal sur les métiers. Donc, c'est un peu, à un moment donné, ça tourne un peu en rond. Et quand l'Ursal décède, il n'y a pas de relève derrière. C'est un peu compliqué. Donc, à nouveau, retombée de tapisserie. Dans les années 90, on est en plein dans les périodes design, contemporain, des confections. Quelque chose avec ses 10 doigts, on passe pour un has-been total. Et moi, je me suis lancée dans la tapisserie. Enfin, j'ai fait mon école à cette époque-là. Donc, c'était un sacré pari, quand même.
Un sacré pari ?
Oui, et on peut se demander, mais pourquoi s'être lancée dans la tapisserie ?
Petite fille, j'ai toujours tricoté, crocheté, canevaté, fait tout ce qui était disponible à la petite mercerie du coin. Mon rêve d'enfant, c'était pas d'aller sur la Lune, c'était d'avoir un petit lieu où j'allais travailler et où j'allais vendre ce que j'allais faire. Ben, moi, je viens d'une famille qui était absolument pas artiste, des gens qui étaient administratifs, tout ce qui est plus traditionnel. Donc, j'en avais même jamais parlé à mes parents, parce que pour moi, c'était vraiment du domaine du rêve, au même titre qu'un petit garçon voulait aller sur la Lune. Moi, pour moi, ça me paraissait être un truc improbable. Et puis, j'avais pas identifié ça avec de la tapisserie. C'était « j'ai envie de fabriquer quelque chose et de le vendre ». Alors, c'est très à la mode. En ce moment, tout le monde veut faire et fabriquer et vend ça sur Internet. Il y a 45 ans, moins. Et quand on a 15 ans, faire du tricot, c'était pas très à la mode non plus. Maintenant, c'est très fun, mais à l'époque, non, pas du tout. Donc voilà. Et puis, donc j'ai fait des études dans le commerce, rien à voir. Très rapidement, j'ai quitté l'école parce que c'était pas quelque chose qui me convenait. Et puis, la vie... moi, j'ai grandi dans le Var. La vie m'a amenée à Paris, où je travaillais en plein centre-ville de Paris, et j'étais au Halles. Et là, j'ai rencontré un jour une petite dame qui était perdue dans le métro et que j'ai dirigée pour qu'elle retrouve son chemin. Et elle avait un accent du Sud que moi, j'étais en train de perdre. Donc, en lui demandant d'où elle venait, elle m'a dit je viens de Lozère, j'élève des moutons et je fais du tissage. Et 3 semaines, là je l'ai regardé, c'était Dieu sur terre pour moi, oh, du tissage. 3 semaines après, j'ai été faire un stage chez elle. Quand je suis arrivée, elle m'a demandé ce que je voulais faire comme étoffe. Et j'ai dit non, mais moi je ne veux pas faire un tissu parce que je n'aime pas trop coudre. Donc du coup, j'ai dit non, moi je veux faire un dessin et le tisser. Et quand elle m'a dit le mot de tapisserie, moi je pensais aux chasses à cour et aux couronnements divers et variés qu'on voyait dans les châteaux de la Loire que j'avais visités. Mais à 20 ans, c'est pas le truc qui nous fait sauter en l'air. Donc j'avais pas identifié ça comme ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai fait. Je me suis sentie complètement à ma place et complètement à l'aise dans ce truc-là. Quand j'en suis partie, elle m'a dit « Écoute, j'ai jamais eu d'élève comme toi, faut vraiment que tu continues. Je comprends que venir en Lozère, c'est compliqué. Trouve-toi quelque chose à Paris. » Il y avait à l'époque, mais j'en avais pas connaissance, heureusement, parce que je me serais peut-être satisfaite de ça, d'un cours régulier. Et en fait, j'ai pu voir une magnifique expo. Alors, en rentrant chez moi, j'ai ressorti un petit cadre, je me suis amusée à tisser, par rapport à ce que j'avais appris. Et surtout, il y a eu une magnifique expo de tapisserie contemporaine aux Beaux-Arts de Paris, donc il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « si ça c'est la tapisserie, je veux savoir faire ». Et travaillant pas loin de Beaubourg, j'ai commencé à écumer le rayon textile de la bibliothèque de Beaubourg, tous les soirs, j'y allais, et à aller voir toutes les expos possibles. Et un jour, un beau matin, je me suis levée, je me suis dit « mais si j'en fais pas mon boulot maintenant, je vais m'en manger la moitié du bras ». Donc j'ai été voir ce qui existait comme école. Et j'ai fait mon école d'art, et voilà, youplazou. C'était parti. Et c'était il y a 30 ans.
Voilà, 30 ans que Marie-Élise Ramusat exerce le métier de lissière.
Mais comment ça se passe à l'atelier ?
Alors moi, je suis sur un gros métier, qui est entièrement manuel, mais qui est 4 fois plus gros que cela. J'en ai un qui fait 2,50 m, un qui fait 3 m. Donc être sur le métier, c'est actionner les pédales, c'est quand on tisse, ça peut être assez physique. Après, en ce moment, je tisse pas de tapisserie, je suis sur une restauration. C'est une pièce qui fait 9 mètres carrés, qui date du 17e. Là, c'est beaucoup moins physique, c'est beaucoup plus statique. Et parce que quand on travaille, on est sur un travail à l'aiguille, pour le coup. parce qu'on ne peut pas remettre la tapisserie sur le métier. Donc les fils, au lieu de les passer comme on les passe en tissant, on va passer les fils, mais avec une aiguille pour arriver à réinsérer, à recréer les tissus qui sont abîmés et qu'il faut recréer quelquefois. Hein. Des fois, c'est juste de la réparation. Quelquefois, c'est carrément de la reconstitution de parties qui sont complètement... qui n'existent plus. Quoi.
Aujourd'hui, vous faites de la création. Donc ça veut dire que c'est vous qui dessinez vos modèles, en fait.
Alors, je dessine mes modèles. Je travaille aussi pour des artistes qui me confient leurs œuvres à réaliser. Et là tout de suite, j'ai eu toute une période où j'ai eu pas mal de restauration à faire. Là, je lève un petit peu le pied sur la restauration pour vraiment être dans la création. Donc, il va y avoir... là, à partir de septembre, je termine mes commandes et je me donne un temps de pause au niveau des commandes pour vraiment faire mes créations. Avec des matériaux rigolos et des choses qui vont un petit peu sortir de l'ordinaire au niveau des formes, au niveau des matériaux. Ça va me demander de la recherche pour adapter ces matériaux au tissage et des expérimentations. Enfin, je vais m'amuser un petit peu, ça va être bien.
Ok, justement, comment on peut s'amuser du coup ? Qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau ?
Moi, j'avais fait mon travail de recherche de fin d'année à l'école sur le principe que tout ce qui était un temps, soit peu souple, pouvait être tissable. Soit on adaptait le matériau au métier, soit le métier au matériau. Donc ça va être des fibres diverses, ça va être du fil de verre, ça va être des fibres optiques, ça va être de la laine aussi. Hein. Je ne quitte pas la laine, la soie. C'est des matériaux très plaisants à travailler, mais il va y avoir aussi du volume, il va y avoir du travail utilitaire aussi, ça va être sculptural, ça va être pour des sièges, on va sortir un petit peu les petites fleurs et les petits oiseaux, et puis donc ça va être un travail graphique et en volume.
La tapisserie tissée n'est donc pas ringarde, loin de là. Merci beaucoup à Marie-Élise Ramusa pour ce reportage que personnellement, moi, je me suis éclatée à faire. À noter qu'il est possible d'aller vous initier à l'art de la tapisserie tissée lors de stages à l'atelier de la Lisse. Et la lisseuse travaille donc souvent seule dans son atelier. On poursuit avec le thème de la solitude, Michel.
Oui, la solitude, ça n'existe pas, chante Ferré. Ceux qui l'ont testée savent bien qu'elle existe, mais finalement qu'elle est relative. C'est pour moi ce que raconte la BD, l'album de bande dessinée Tout seul de Christophe Chabouté, publié en 2008. Cette BD, 360 pages, qui raconte l'histoire d'un homme qui vit seul dans son phare, au large de la côte. Un homme que personne n'a jamais vu, que personne n'a jamais cherché à rencontrer, pas même les marins qui sont chargés de son ravitaillement. Alors la solitude absolue, en tout cas, pas le vide ni l'ignorance. Mais ce n'est pas de la BD que je voulais vous parler, c'est du spectacle adapté de cette BD. Car la compagnie Une de Plus, une compagnie de Bourg, a adapté ce récit pour la scène. Elle donnera son spectacle à Bourg vendredi et samedi prochain. Pour nous en parler, deux membres de la compagnie Une de Plus, David Pain et Pascal Marinelli, sont avec nous dans le studio. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors tout seul, une bande dessinée remarquable, contemplative, presque muette, même pas de narration. Tout est en noir et blanc, le graphisme de cet album d'ailleurs est vraiment une réussite et il contribue à la force du récit. Et puis un phare au milieu des flots. Finalement, le matériau n'est pas très approprié, une adaptation théâtrale. Comment vous avez procédé pour cette adaptation, Pascal Marinelli ?
Oui, donc effectivement, c'est vrai qu'en lisant cette BD, moi, la première fois que je l'ai lu, j'avais l'impression déjà de voir un film. Je pensais à cette approche avec ces premières pages silencieuses, avec cette mouette qui nous amène sur le site. C'était déjà un spectacle vivant pour moi. Voilà, j'y ai vu du mouvement, paradoxalement, dans cette BD en la lisant. Ensuite, effectivement, c'était presque une commande, c'est-à-dire c'est que la Delphine, la marionnettiste qui a confectionné les marionnettes et qui joue, m'a dit « Là, je crois qu'on a notre prochain spectacle ». C'est donc, je l'ai pris comme une commande. Alors, je l'ai lu, j'ai d'abord apprécié pour ce qu'elle était. Et puis après, la poésie de cette histoire, la manière dont Christophe Chabouté a traité cette histoire, je pense que c'est tout simplement cette poésie qui a rendu évident que ça pouvait être adapté. Voilà. Donc c'était le cœur de l'adaptation, c'était vraiment faire vivre la poésie de cette histoire. Alors adapté, Effectivement, une BD, c'est surtout ce qui a été le plus difficile, c'était ce côté, ça se passe dans un phare, mais il y a surtout ce marin qui apporte ses colis toutes les semaines, et comment on peut arriver à adapter ça. Et effectivement, j'ai imaginé que ce marin, il était maintenant à la retraite, au fond de son bar, et qui nous racontait cette histoire. Voilà.
C'est le marin qui ravitaille l'homme de seul sur son phare.
Voilà. Et régulièrement, qui, finalement, on a un peu décalé chronologiquement l'histoire. Et ce marin, il est fier de ce qu'il a pu faire pendant tant d'années pour accompagner tout seul. Et il nous raconte l'histoire. Voilà.
Le récit en image dans la BD est donc remplacé par un récit en parole, puisque le théâtre, c'est aussi la parole.
Voilà, en parole et aussi en théâtre d'objet, David.
En théâtre d'objet, oui, en jeu, tout à fait. La parole, c'est vrai que la marionnette parle dans le spectacle, hein, par le biais de la voix de Delphine. Enfin, là, elle est marionnette, il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que tout seul. Et puis, le fameux pêcheur, Joe, que j'interprète, donc, nous raconte, et un peu donc, le conteur de cette histoire. Donc, c'est... Il y a des phrases vraiment prises dans la bande dessinée, d'autres réécrites par Pascal pour une bande dessinée assez imposante, assez grande. On rentre vite dans l'histoire, mais là, c'est vrai qu'il fallait que le spectacle soit court aussi. Donc, il faut synthétiser tout ça. Donc, ça passe beaucoup par les mots, mais aussi quand même beaucoup par du visuel, qui reste aussi l'intérêt de la bande dessinée, donc qui est un peu... retranscrite dans le spectacle avec dans la couleur aussi, dans le noir et blanc, dans du fond de décor, enfin dans des choses comme ça.
Donc il y a un ou plusieurs comédiens et une ou plusieurs marionnettes.
Il y a plusieurs marionnettes, il y a une marionnettiste qui manipule bien sûr les marionnettes et qui les a créées, donc Delphine. Et puis donc moi j'ai j'endosse deux rôles en fait, celui de Joe, le vieux pêcheur, qui est au fond de son bar, et également un technicien qui intervient dans certaines manipulations, dans un lien avec le marionnettiste. Également, on a un musicien, Pierre Renard, qui vient agrémenter l'ambiance, comme disait Pascal, dans la bande dessinée, on rentre par une mouette qui nous emmène jusqu'à un lieu. Là, en fait, on a de la musique aussi qui peut être interprétée avec de vrais instruments. La guitare, de la percussion, mais également avec des bruitages qui viennent agrémenter un peu des ambiances quand on se retrouve dans la mer, avec une bouilloire, avec des billes qui viennent rouler pour faire un peu le roulis des cailloux sur en bord de mer. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer quand on est, et tout ce qu'on va rechercher quand on est au bord de la mer, en fait.
Ça reste un spectacle intimiste ?
Ça reste un spectacle intimiste.
Il y a cette fameuse intimité de tout seul, hein, oui. Mais il est bien accompagné, et il est accompagné par les mots, hein, puisque c'est sa manière finalement de se sentir moins isolé, c'est de s'accrocher à ce dictionnaire, à ces définitions un peu abruptes du dictionnaire, et puis de partir dans l'imagination, de rêver, voilà.
Tout seul, alors paradoxalement, et l'histoire d'une rencontre, finalement, c'est important pour vous de rencontrer les autres et de faire des rencontres insolites ?
Alors, l'existence de la compagnie Une de Plus, c'est ça. Ce sont des rencontres, ce sont des amitiés avant tout. Donc, nous ne sommes pas professionnels, hein, nous avons un métier par ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment, nous sommes amateurs au sens premier du terme, parce qu'on aime le spectacle vivant. Ouais. Parce qu'on a été, je crois, des spectateurs aussi du spectacle vivant. On s'est imprégné de tout ça. Et donc, oui, c'est ça qui nous anime. Et c'est surtout les rencontres. Alors, les rencontres, donc, c'est parti d'amitié, évidemment. Rapidement, dire que toute l'origine de notre premier spectacle, c'était une rencontre, une amitié entre Delphine qui voulait découvrir les marionnettes, la confection des marionnettes, et qui s'est liée d'amitié avec une grande, grande marionnettiste qui a confectionné des marionnettes, qui est à l'origine du festival de Mirepoix en Ariège, Hélène Leroux, et qui est maintenant peintre vers Saint-Amour. Voilà, et donc c'est vraiment parti d'une amitié. Voilà, et moi aujourd'hui, je crois que ce week-end, je vais passer deux jours avec des amis. Voilà.
Donc ce week-end autour des représentations de Tout Seul.
Voilà.
Quelle est la durée du spectacle ?
Une heure et quart environ, suivant si on est bon ou pas.
Vous avez. Comment vous avez représenté le phare ?
Alors. Le théâtre d'objets rentre dans l'histoire quand je vais vous dire en fait qu'est-ce que le théâtre d'objets. Joe, à un moment donné, il a sur sa table, comme il est au fond du bar, il vient de finir de manger, il a bu son café, il lui reste encore un petit peu de vin dans sa bouteille, et qu'est-ce qu'il peut faire avec une assiette, un moulin, un poivre, une tasse, un sucre, enfin des sucres, une fourchette, une lampe à vélo qui traîne par-ci par-là, un journal. Bien avec une assiette en terre et un moulin à poivre, il en fait une île avec son phare. Avec une tasse et des sucres, il en fait une terre et les colis qu'il va donner à Tout Seul. Une fourchette, une lampe, un vélo, il en fait la lumière du phare, en fait, qui vient donc guider les marins. Donc il l'a tout le temps guidé dans toute sa vie. Et avec un journal, on peut très bien imaginer le papier, ce qu'on peut en faire, des chapeaux, mais également surtout un bateau dans notre cas. Un bateau en papier, donc tout est représenté sur la table de Joe pour qu'il puisse raconter cette histoire, mais tout est aussi présent en vrai dans le monde de Tout Seul, puisque Tout Seul se retrouve réellement dans un phare avec un décor qui est en carton, qui a été confectionné par Manuel, et puis donc Tout Seul est un petit personnage qui se déplace sur table. En fait, c'est une marionnette sur table. La marionnettiste est à vue. Donc, les deux personnages sont vraiment dans un phare, dans un décor de phare. Donc, le phare est représenté et vous verrez la mer aussi au fond de la fenêtre, normalement, si vous regardez bien.
D'accord. Donc, le spectacle est donné vendredi soir, samedi après-midi et samedi soir. Vous nous rappelez le lieu, les horaires ?
Les horaires, alors le soir c'est à 20h30 et l'après-midi donc c'est à 16h samedi après-midi. Et donc c'est à la salle Louis Blériot qui se situe à côté de la médiathèque Aimé Césaire à Bourg-en-Bresse.
Oui.
Voilà, c'est plus facile à trouver. On mettra une belle affiche sur la porte pour que les gens puissent trouver le phare.
C'est une salle de quartier qui est facile à trouver derrière la médiathèque Césaire, oui.
Voilà, d'accord. Tout à fait.
Un numéro de téléphone pour la réservation ?
Oui, le 07 85 43 71 16. Donc voilà, on vous conseille de réserver même si le prix est libre parce qu'on limite la jauge à 50 places par représentation pour que le public soit vraiment au plus proche et justement soit, on va dire, le plus intégré dans le phare.
Voilà, et garder le caractère intimiste, j'y reviens, et poétique de cette BD de départ.
Tout à fait.
Merci beaucoup David Pain, merci beaucoup Pascal Marinelli.
Merci.
Merci à vous.
À la fin de la semaine alors.
Eh bien, on espère.
Merci beaucoup à vous. La Fabrique de la Culture sur Radio B, ça continue. On vous l'a promis en début d'émission, Bourque s'apprête à un voyage d'une dizaine de jours en Belgique.
Alors attention au départ, destination la Belgique. La Belgitude est effectivement le thème 2018 de l'événement culturel voulu par la ville en mai de chaque année, après Folie en 2017 et Ballet Masque en 2016. Comme quoi les thèmes peuvent être extrêmement variés. La Belgitude en 2018, parce que le Monastère Royal de Brou accueille à partir du 8 mai jusqu'à fin août une exposition exceptionnelle de peintres flamands de l'époque grosso modo de Marguerite d'Autriche à partir du début du XVe siècle. Marguerite d'Autriche, notre princesse préférée des Burgiens, je le rappelle. Belgitude aussi parce que la Belgique est très tendance actuellement. Petit royaume qui s'empêtre dans des dissensions politiques et communautaires, mais qui nous donne en même temps des leçons de tolérance, de progrès social et aussi d'humour et d'autodérision. C'est surtout autour de ce dernier volet, de l'humour loin des blagues belges pourries d'il y a quelques décennies, que la belgitude va s'exprimer à Bourg. Comme chaque année, lors de l'événement culturel de mai, de nombreux spectacles sont proposés, souvent offerts d'ailleurs au public. Du théâtre de rue, des concerts, du cinéma, du cirque, des expos, des conférences, des dégustations, etc. Au total, une soixantaine de rendez-vous entre le 8 et le 16 mai. Alors nous n'allons pas tous les décliner ici, sachez que le programme est disponible en ville et sur le site internet de la ville, et que le 8 mai, les rendez-vous sont nombreux, également que beaucoup de spectacles sont gratuits, qu'il faut vite réserver s'ils sont en salle. Alors quand même, quelques dates et lieux ont retenu mon attention. Beaucoup de choses à H2M, l'hôtel Marron de Mayona, une exposition de street art qui vaut le détour, une autre qui nous parle intelligemment à la fois de l'histoire de la naissance d'une nation, les États-Unis en l'occurrence, et de la BD belge, on y revient, qui fait école. Et puis dans la cour de Malraux, la cour d'H2M, des concerts, notamment de l'harmonie de Bourg, et des départs de déambulations décalées. Par ailleurs, ne manquez pas non plus les propositions des médiathèques, notamment la médiathèque Césaire, dont on parlait à l'instant. Et puis du cirque, avec le Cirque démocratique de Belgique, le 8 mai à 18h, derrière Brou. Trois jongleurs fantaisistes qui poussent le public à choisir, de gré ou de force, le contenu du spectacle. On parle bien de cirque démocratique, donc il est impératif de se prononcer. Et le public doit donc demander, parfois de façon totalement déresponsabilisée, des numéros qui sont trop difficiles aux jongleurs. Le jeudi 10 mai à 17h, derrière Brou encore, un drôle d'orchestre de fruits et légumes. On peut jouer de la musique avec une carotte, s'amuser avec un poireau, etc. Le vendredi 11 et le samedi 12 après-midi à H2M, 6 visites commentées et délirantes du Musée de la Belgitude par le Magic Land Théâtre de Bruxelles. Cette compagnie est actuellement menacée d'ailleurs par la rupture de financement public. Comme le dit une comédienne qui joue le rôle d'une attachée culturelle bidon, nous devons bien financer des compagnies qui jouent devant des salles vides. Eux, le Magic Art, Land Art, donc a beaucoup de public. De quoi se plaignent-ils ? Et puis d'autres artistes venant spécialement de Belgique pour une joute folklorique des Chassiers de Namur, les 10 et 11 mai à 18h30, Esplanade de la Comédie, ou pour une conférence délurée sur l'Odyssée d'Ulysse, Place des Bons Enfants, le 16 mai à 12h30 et 15h. Allez, je termine presque par un spectacle musical autour des chansons de Brel, L'Incontournable, par Nicolas Palot, au Vox, le samedi 12 à 20h30. Et donc cette sélection est bien sûr loin d'être complète. Tout cela se terminera par une fête de clôture, ouverte à tous et gratuite, aux arrières de Brou, spectacle qui marquera en même temps l'ouverture de Brin de Cirque, le festival de cirque de l'Étac de Bourg. Les Belges sont des personnes attachantes. La Belgique est un beau pays. L'événement de mai 2018 est l'occasion de rencontres riches. On aurait tort de se priver, Alicia.
Ça sera Anaïs. Vous êtes bien sur Radio B comme Belgitude.
Évidemment. Merci Anaïs.
Comme chaque mois, on a bien fouillé l'agenda culturel local pour vous proposer quelques belles idées de sorties, Anaïs.
Michel l'a évoqué rapidement, je vous rappelle les dates de l'incontournable festival Brin de Cirque, principalement aux arrières de Brou, du 16 au 26 mai. Alicia et Babalia ont évoqué la fête de la tannerie le 1er mai, mais cette semaine-là, on fête aussi les 20 ans, encore un anniversaire, de la truffe et les oreilles. C'est l'association qui gère la tannerie. Tout ça aura lieu du 1er au 5 mai.
Michel, un peu de chanson française pour ce week-end ?
Oui, le nouvel opus de Raymond Gary est annoncé, un CD consacré principalement aux chansons inédites et de Jacques de Broncard. Raymond Gary chantera ces chansons-là le vendredi 27 et le samedi 28 à 20h30 au Théâtre Arfenheim, 9 rue Lazare Carnot à Bourg. Nathalie Fortin sera au piano et le spectacle s'appelle, comme le CD apparaître, Voix de Caillou. Alors il vaut mieux réserver au 06 86 72 57 54.
Il est temps de nous quitter, je sais que vous en êtes très très triste. Merci Anaïs, merci Michel, merci également à tous nos invités et puis également un grand merci comme d'habitude à Pauline, notre réalisatrice.
Merci Alicia.
Je vous en prie. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast sur radio-b.fr et puis on se retrouvera le mercredi 30 mai pour notre prochaine émission. À 20h, Mascareigne, l'émission des musiques de La Réunion et de l'océan Indien. Beau programme, n'est-ce pas? Et je vous laisse en musique avec Patriarchie, le Délouva, que vous pourrez retrouver en concert ce vendredi 27 avril au Café de la Tannerie. Allez, très belle soirée sur Radio B.
And you're the target.